Allez, bonsoir à tous. Avant d'ouvrir la séance du conseil municipal, je voudrais qu'on ait une minute de silence pour deux conseillers municipaux qui nous ont quittés ces derniers jours. C'est donc Monsieur Martinet, Monsieur Paul Martinet, et c'était Paul, hein, c'est ça? Paul Martinet et Monsieur Maurice Blain. Donc, je vous demande qu'on ait une petite minute de silence pour eux. Merci. Procéder à l'appel. Donc, Jackie Sommeveil. Vanessa Savini. Présent. Jean-Pierre Monnet. Présent. Myriam Charabasi. Présent. Ghislaine Genin. Présent. Raymond Baudin. Présent. Jean-Pierre Marion. Présent. Francine Arrigoni. Présent. Fernand Lopez. Pierre Bluna, Béatrice Rosan, René Roja, Nicolino Tonambé, absent, Patricia Morgado, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, absent de pouvoir, Raymond Baudin, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Allong, absent de pouvoir, Anne-Cécile Germain, Victoria Audin, absente, Alexandre Luxos, Nicolas Bossupica, Eric Silvestrini, présent. Christine Curteau, présent. Daniel Mancy, Cécile Gaillard, présent. Et Sylvia Vioguet. Quorum est atteint. Je commence par l'approbation du PV du Conseil municipal du 20 décembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations ? Allez-y.
Voilà. Je voterai contre parce qu'il ne reflète pas les débats qui ont été parfois difficiles lors de ce conseil. Et je voulais quand même rétablir un petit peu certains problèmes. Avant de commencer donc ce conseil municipal, je tenais à rappeler que dans notre pays, les élus de la minorité municipale font vivre la démocratie par le débat et que l'intérêt général se construit dans la discussion. Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Je vous rappelle que le conseil municipal représente les habitants, donc que le conseil municipal est le lieu des débats et non les commissions municipales, comme il m'a été rappelé la dernière fois. Donc c'est là où on peut effectivement discuter. Tout conseiller municipal doit être informé des affaires de la commune faisant l'objet d'une délibération afin de garantir l'expression du pluralisme et de permettre au public de connaître les différents points de vue des élus sur les affaires communales. Le législateur a reconnu des droits aux élus de l'opposition au sein du conseil municipal. Je tenais à rappeler ces principes qui ne sont pas parfois respectés.
Merci. On prend note.
Oui, vous prenez note.
Je ne peux pas bien faire mieux. D'autres observations ? Je propose qu'on mette au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je propose qu'on désigne comme secrétaire de séance Nicolas Bossupica. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc je donne la parole à Myriam Charabasi pour la première délibération.
Est-ce que vous avez un stylo ? Merci.
C'est bon. Bonsoir à tous. Cette première délibération porte sur la création d'un budget annexe pour le château Montvinet. Je rappelle qu'en 2023, un appel à candidature a été lancé afin de gérer l'exploitation d'un hôtel-restaurant au sein du château. Aujourd'hui, et après conseil du trésorier, il convient de créer un budget annexe, puisque cette activité va rentrer dans le champ concurrentiel et doit être identifié tant sur le plan du service que sur le plan financier. Il s'agit d'un service public industriel et commercial qu'on surnomme le SPIC. Et ce budget sera de fait assujetti à la TVA et les montants seront alors exprimés en hors-taxe. L'individualisation de la gestion d'un SPIC en budget annexe permet d'identifier le coût réel du service qui doit être financé par l'usager, en l'occurrence le futur exploitant par sa redevance. Aujourd'hui, il est proposé de créer ce budget en date du 1er avril 2024 et de l'intituler « Budget annexe Château-Montvinet » et de l'assujettir à la TVA. Et ce budget sera géré avec une nomenclature spécifique qui est la M4. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous souhaitons simplement définir un périmètre autour de ce budget. Et puis, l'avantage, c'est de récupérer la TVA un peu plus rapidement.
Des questions sur cette délibération ?
Oui, moi.
Allez-y.
Donc, en fait, hein, donc ce que j'expose, hein, je l'expose après discussion avec mes colistiers de la liste. Hein. Donc, il est normal, effectivement, de créer ce budget annexe parce qu'on est dans un domaine concurrentiel, mais on se pose des questions. Pourquoi n'a-t-il pas été créé plus tôt ? Parce qu'il y a des dépenses qui ont été engagées sur le budget communal en décembre. Frais de maîtrise d'œuvre, contrôleurs techniques, études qui font l'objet de décisions du maire et non de délibération. Du coup, ce budget annexe créé n'intègre pas toutes les dépenses que la commune a faites et va devoir assumer. Comment cela va se passer pour régulariser cette situation où on a des dépenses prises en charge par le budget communal et d'autres par le budget annexe ? Et comment faites-vous pour régulariser la TVA avec deux dispositifs différents entre le budget communal et le régime réel pour le budget annexe. Donc j'aimerais bien que vous puissiez répondre à toutes ces questions.
Sur ce sujet, on travaille avec le trésorier. D'abord, il y a très peu de dépenses qui ont été engagées, enfin qui ont été payées, puisqu'elles avaient été engagées, mais pas forcément payées. Donc il y en a très peu, et on fera le détail. Et on travaille avec le percepteur, effectivement, pour régulariser cette partie-là. La TVA, elle sera récupérée de toute manière. C'est juste qu'elle est récupérée dans des délais différents, mais elle sera récupérée. Et il y a eu très peu de dépenses qui étaient affectées. Et les dépenses qui étaient affectées ne sont pas toutes affectées, d'ailleurs, sur ce budget annexe, puisque les études ont porté, en particulier sur le bureau d'études Ellipse, c'était plus sur l'aménagement des extérieurs et des espaces de promenade. Donc celles-ci ne seront pas dans le budget annexe, hein, puisque ce n'est pas dans la partie-là. Et sur la partie maîtrise d'œuvre, il y a une partie des travaux qui étaient de plan état des lieux qui prenait également les annexes. Donc elles ne sont pas toutes sur. Donc on est en train de travailler la répartition avec le percepteur, mais pour l'instant, il y a très peu de dépenses qui ont été affectées directement liées à ce projet-là.
Ben, moi, je n'ai pas eu le temps de bien regarder toutes les décisions du maire, mais je pense que.
Je vais vous les dire. Hein.
Peut-être que je
vais. Du coup, elles ne sont pas toutes dessus. Et celles qui ont été engagées ne sont pas forcément payées à ce jour. Et du coup, on travaille avec le percepteur pour la régularisation.
Oui, et donc on peut penser quand même que ça aurait pu être créé beaucoup plus tôt.
Non, ce n'était pas forcément nécessaire, puisque aujourd'hui on le crée, mais il ne serait pas forcément nécessaire de le créer aujourd'hui, puisque il n'est pas encore en exploitation. Donc aujourd'hui, c'est une volonté et un travail commun qu'on a mené avec le trésorier, mais ce n'est pas une réelle obligation, puisqu'il n'est pas encore aujourd'hui mis à disposition, comme la plupart des choses qu'on a fait, qui sont faites d'ailleurs dans d'autres communes. Donc, ce n'était pas une réelle obligation aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ça nous apporte de la sécurité sur la TVA, surtout ce qui était intéressant. Mais on travaille avec le percepteur sur ce sujet-là.
Oui, mais je pense quand même qu'il y a quand même beaucoup de décisions du maire qui ont été faites. Des décisions.
Les décisions, ce n'est pas des règlements.
Oui.
Et oui, c'est des engagements. Et aujourd'hui, il y a des engagements qui ne sont pas aujourd'hui encore payés et qui seront payés, effectivement, soit sur le budget annexe, soit sur le budget principal, ou avec une clé de répartition, puisque il y aura, pour la plupart des dépenses qui sont engagées, vont être faites avec une clé de répartition, parce que tous ne sont pas liés au budget annexe. Je pense en particulier au plan état des lieux qui a été engagé, qui couvre les trois quarts en dehors du budget annexe, un quart sur le budget annexe. Sur la partie des études des cheminements extérieurs, ça couvre quasiment que les en haute que le budget annexe, etc., etc. Donc on travaille avec le percepteur pour faire la bonne ventilation. Et c'est lui qui est garant quand même de cette ventilation. D'autres questions sur la mise en place du budget annexe pour le château Montvinet? S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui. Merci. Donc toujours en lien avec le Montvinet, donc la délibération 2024-02 et la demande de subvention au conseil départemental de l'Isère pour l'aménagement donc de l'hôtel-restaurant du château Montvinet. Donc on vous le demandera régulièrement, c'est de réactualiser le plan de financement. Et là aujourd'hui, sur une ligne spécifique, on essaye d'aller chercher 1 million d'euros auprès du département de l'Isère. C'est pour ça que ça on représente le plan de financement. Donc je rappelle, donc c'est une demande pour là cette délibération, elle prend pour 1 million d'euros pour le département de l'Isère. On a une demande de 340 000 pour la région Rhône-Alpes et 500 000 pour l'État, ce qui ferait un total de demandes aujourd'hui à 1 840 000. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur cette demande de subvention auprès du département de l'Isère dans le cadre du nouveau plan qui est mis en place pour les projets structurants sur les EPCI?
Ben, moi.
Oui.
Donc, sur cette délibération, j'ai juste une interrogation. Le titre de cette délibération, c'est « Demande de subvention au conseil départemental de l'Isère pour l'aménagement d'un hôtel-restaurant au château de Montvinet ». Et en fait, après, vous demandez donc au conseil municipal d'approuver le projet, d'approuver le plan de financement, de solliciter l'attribution d'une subvention de 5 000 euros auprès de l'État, de solliciter l'attribution de... etc. Donc je trouve que l'intitulé ne correspond pas à la délibération. C'est parce que donc on a déjà délibéré par rapport à 340 000 et par rapport à 500 000.
Et pour pouvoir faire les demandes, on est obligé de présenter un plan de financement.
Non, donc mais c'est pas plan... cette question.
Oui, si. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la demande, la délibération porte bien pour le million. Par contre, dans le demande, on est obligé de mettre un plan de financement pour les demandeurs, pour nos financeurs. Donc pour le financeur, on explique qu'effectivement, on lui demande 1 million d'euros et on explique les autres demandes qui sont faites, qui seront faites ou qui sont faites.
Alors, est-ce qu'elles ont été faites ou est-ce qu'elles
encore
seront faites?
Non, elles seront faites, mais c'est le plan de financement qu'on doit présenter aux
financeurs. Donc, elles n'ont pas l'attribution d'une subvention de 500 000 euros hors taxes auprès de l'État et 340 000 euros auprès de la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'elles ont été faites ou est-ce qu'elles seront faites?
Elles vont être faites. Mais par contre, c'est le plan de financement conjoint.
Et pourquoi elles ne sont pas faites?
Mais on peut modifier le titre, on peut modifier le titre et les globaliser, si vous voulez.
Bah, oui, parce que là, ça ne correspond pas du tout. Il me semble que c'est
un anachronisme. Si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on modifie le titre et on rajoute la région Rhône-Alpes et l'État, même si les dossiers ne seront pas déposés tout de suite.
Et donc, je voulais aussi donc intervenir par rapport à ces demandes. Pour nous, donc, tout cet argent public pour un intérêt privé, inadmissible. Alors que les restaurants du cœur ont des difficultés à assurer les distributions, que les associations caritatives sont débordées, la municipalité subventionne une piscine pour un hôtel. En juin, il ne restera que 3 médecins, dont une déconventionnée sur les 7 médecins qu'il y avait auparavant et qui sont absolument nécessaires pour la santé publique des Vinois. Toute cette énergie monopolisée pour un hôtel-restaurant et où les Vinois n'en profiteront pas. Donc, moi, j'ai mis des doutes sur les attributions de l'enveloppe prévue pour la participation, parce que 1 million pour financer... un hôtel-restaurant qui sera géré par un privé, ça me semble incroyable. Et donc, pour moi, je voudrais aussi avoir le détail des 2 300 000 euros. Et puis, je voulais aussi avoir les règles du contrat avec le groupe Chavant, c'est-à-dire que donc il s'est engagé sur un certain nombre d'années. Si ça ne fonctionne pas, il peut partir au bout de combien de temps, etc. Je voulais avoir tous ces détails que je n'ai pas.
On vous les fournira, effectivement.
Oui, mais on vous les fournira. Vous me dites tout ça, on vous les fournira, mais je ne les ai jamais.
Oui, ben on vous les fournira.
Parce que, par exemple, pour le détail, le tableau, par exemple, des effectifs, le 20 décembre, Myriam, vous m'aviez dit, assuré qu'on est au mois de mars. 3 mois après, je n'ai toujours pas.
C'est en préparation. On a nos services qui sont très pris par d'autres.
Vous devez bien avoir un tableau des effectifs quand même.
On les a, mais on vous les préparera. Vous inquiétez pas.
Non, mais vous inquiétez pas, c'est 3 mois.
On vous les fera parvenir.
Et puis, donc voilà, donc à chaque fois, vous me dites, monsieur le maire, on vous répondra, vous me répondez jamais.
Ben, on vous répondra quand on... Non, aujourd'hui, on est sur la demande de financement d'un patrimoine.
Donc, je vais vous faire une demande pour que savoir le détail des 2 300 000 et les règles du contrat avec le groupe Chavant.
Sur les 2 300 000, je vous ai déjà expliqué qu'aujourd'hui, c'était une enveloppe prévisionnelle, que les études étaient en cours et pour l'instant, il n'y avait pas de détails à donner puisqu'on n'a pas encore fait l'étude. Donc, c'est une enveloppe prévisionnelle, comme on fait toujours pour les demandes de subventions, puisqu'on commence par faire une demande de subvention
sur des
enveloppes.
Mais vous avez bien appuyé sur quelque chose.
On s'est appuyé sur l'étude qui vous a été présentée au conseil municipal sur la faisabilité par le bureau, j'ai mangé le nom, Amolande. On vous l'a présenté au conseil municipal.
Oui, mais elle n'était
c'est
pas
ce
détaillée.
Bureau Amolande qui a défini une enveloppe. À partir de cette enveloppe, c'est comme ça qu'on établit le
quantitatif. Je ne sais pas, moi, si je fais des réparations chez moi, je sais que je vais avoir pour le chauffage, je vais avoir tant, pour l'isolation, je vais avoir tant.
Ça s'appelle, les études de maîtrise d'œuvre qui démarrent. À l'issue de cette étude de maîtrise d'œuvre, il y aura une étape qui sera l'étude, l'avant-projet détaillé, qui va nous donner des prix. Là, aujourd'hui, on est sur l'estimation qui a été faite dans le cadre d'un diagnostic par le bureau Amolande. Donc, on fait les demandes de financement sur cette base-là. Et lorsque l'étude sera faite, vous aurez là ce que vous expliquez, ce qu'on fait sur l'avant-projet détaillé, qui, là, par contre, définira les dépenses qui seront peut-être de 2 100 000, 2 2 millions, peut-être de 2 4 millions, je ne sais pas. Aujourd'hui, on part sur un budget qui a été établi par le bureau Amolande, qui vous a été présenté au conseil municipal.
Et pas au niveau détaillé.
Pour 2 300 000. Mais il ne peut pas y avoir de détails avant d'avoir fait l'étude.
Pas, ils n'ont pas fait comme ça.
On ne peut pas avoir... Si, c'est des estimations au ratio, comme ça se fait toujours.
Ah bon,
c'est comme ça. Et maintenant... Ben oui, sinon ça serait trop fort si on pouvait donner des prix sans faire des études. Et il y a maintenant l'étude qui est en cours, et là, ça s'appelle l'APD, l'avant-projet détaillé, où là, il y a la somme qui est définie, et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra savoir si on engage ou pas la dépense. C'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours dit que tant qu'on n'avait pas l'APD, on resterait sur la réserve. Donc aujourd'hui, on attend l'APD. Lorsqu'on aura l'avant-projet détaillé, on aura le montant de la dépense, et vous aurez les détails.
Et vous me répondez sur les règles du contrat avec le groupe Chavant ?
Eh bien, c'est pareil, sur les règles du groupe Chavant. Pour l'instant, aujourd'hui, la délibération ne porte pas sur les règles du détail du contrat de Chavant. Elle porte sur les travaux...
Mais moi, en tant qu'élu municipal, je vous demande...
Aujourd'hui, la délibération porte sur des demandes de financement pour un patrimoine.
De me répondre... En tant qu'élu municipal, j'ai le droit d'avoir toutes les informations. Je me suis renseigné. Donc, je vous demande... Peut-être, je ne peux pas me répondre ce soir, mais vous de me répondre par rapport à
mais
ça.
Il a toujours dit que les règles, les définitions du contrat Chavant seront discutées et vues en commission et redébattues au conseil municipal quand ça sera le moment. Pour l'instant, on n'en est pas à ce stade-là.
Donc vous n'avez pas signé avec le groupe Chavant.
On n'en est pas à ce stade-là, puisqu'on a toujours dit, et c'est l'engagement qu'on s'est pris
Est-ce
tous
que vous
ensemble,
avez signé avec
qu'on
le groupe Chavant
a, on attendrait l'APD pour aller sur le. Parce qu'on attendrait l'APD justement pour avoir le prix détaillé des frais, pour savoir comment on engagerait les choses et à quel montant on définirait les choses définitives. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça vous sera présenté d'abord en commission. C'est l'engagement que j'ai pris devant tout le monde. Donc je le maintiens, ça vous sera présenté en commission et ensuite présenté au conseil municipal quand ça sera le moment.
Et ce sera quand le moment ?
Je ne peux pas vous dire quand on aura l'APD. Je ne peux pas vous dire plus.
Oui.
D'autres questions sur la demande de financement à nos partenaires sur ce projet ?
Alors, je tenais à dire que je vais voter contre, parce qu'effectivement, comme j'ai voté contre au niveau du projet, donc ma logique fait que je vote contre cette délibération aujourd'hui. Où les Vinois n'auront rien à dire sur cet hôtel-restaurant.
Pas d'autres questions sur. S'il n'y a pas d'autres questions, je.
Ben moi.
Qui s'abstient ? Merci. Donc, la délibération 2024-03, c'est une cession de partielle de terrain, donc cadastrée à M109, à M110, à M112. Donc, c'est toujours notre fameux projet. Gendarmerie avec les échanges entre les services fiscaux et le bailleur, puisqu'aujourd'hui a été calé avec les services fiscaux et en particulier donc les services du patrimoine des gendarmes sur lequel, au tout départ, quand le bailleur a commencé son projet, il y avait des règles qui étaient définies par le service patrimoine de la gendarmerie, et en particulier d'avoir une voie d'accès qui soit totalement réservée à la gendarmerie pour garantir une sécurité et surtout une utilisation totalement privative pour les usages de la gendarmerie. Il s'est avéré que lorsque le bail est fait directement par les services fiscaux et en particulier par les services de Bercy, ils ont baissé la valeur du bail qui est proposé aux porteurs de projet, donc à Habitat Dauphinois, qui doit organiser la gendarmerie et les logements. On a rediscuté du coup avec les services de l'État et en particulier avec le préfet et puis les services fiscaux. Il a été obtenu donc une validation, un accord, de dire que la voirie ne serait pas forcément privative à 100% pour la gendarmerie, mais elle pourrait être utilisée à 50% pour l'utilisation de la commune, parce que vous savez que la voirie va rentrer dans le terrain. À droite, elle va desservir la gendarmerie, et il va nous rester tout le terrain de gauche, qui est donc un terrain qui reste à une éventuelle évolution pour la commune. En particulier, peut-être, pourquoi pas, on pourrait imaginer d'autres services publics qui sont encore manquants sur la commune. Donc il a été défini que la voirie, vous savez qu'on avait rajouté à la demande des services fiscaux 138 000 euros à la vente pour pouvoir dire qu'on portait les travaux mais qui étaient remboursés par les 138 000. Du coup, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est que la commune prenne en charge la moitié de ces 138 000, donc 69 188. Donc, on redélibère pour modifier le prix de vente donc à 361 000, contrairement à ce qu'on avait fait délibérer précédemment. Du coup, aujourd'hui, ça revient à dire que la commune prend en charge la moitié de la voie d'accès, puisqu'elle servira à desservir le reste du terrain de la commune. J'ai eu les services du patrimoine cette semaine. Ils ont validé les conventions avec le Habitat Dauphinois. Ils ont donné l'autorisation à Habitat Dauphinois de passer l'OS aux entreprises. Donc les entreprises vont pouvoir démarrer courant du mois d'avril sur ce projet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ?
Ben oui.
Vas-y.
Donc lors du dernier conseil municipal en décembre, monsieur le maire, à l'interrogation que je portais sur le financement de la future gendarmerie, vous me répondiez, la gendarmerie est construite par un bailleur qui va la louer à l'État. La commune vend le terrain, ce qui ne coûtera rien aux Vinois. La commune récupérera la taxe foncière et la taxe d'aménagement. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Je comprends que ce n'est plus le cas, car la commune devra assumer 69 188,50 euros de travaux de viabilisation. Voilà, donc constat. C'est tout. Et alors après, des interrogations que certains de notre liste, que je vous soumets. La vente des travaux, pour certains d'entre nous, ça n'existe pas. La commune pourrait verser un fonds de concours, subvention d'investissement à Habitat Dauphinois, de ces donc 69 188,50 euros. Mais cela nécessite une délibération spécifique. Ainsi, Habitat Dauphinois assumerait la totalité de la charge de viabilisation. Où en est l'ajustement budgétaire qui prévoirait cette modification de crédit ? Alors, ce que je voudrais, c'est que vous me répondiez. Moi, je suis...
Donc, déjà, je vais vous répondre sur une première question. Ça ne coûte pas aux Vinois, puisqu'aux Vinois, ça rapporte qu'à 292 000.
Attendez.
On vend le terrain 361 000 euros. Et on paye à côté, effectivement, 69 000 euros. Donc, moi, si je fais 361 000 moins 69 000, ça fait quand même, pour les Vinois, 292 000 qui rentrent dans les caisses. Je suis d'accord avec vous. Je vais même être tout à fait franc avec vous. On a fait des réunions en préfecture, des réunions avec les services de Bercy. J'ai même, à un moment donné, mis ma démission en jeu, même mis, à un moment donné, me proposer de faire la grève de la faim si on n'arrivait pas à aboutir, puisque c'était un scandale ce qui était proposé par les services de l'État sur le montage de ce dossier. Aujourd'hui, on peut tout délibérer, mais il y a deux solutions. Et là, je vous le dis clairement, on délibère, on est favorable, ou on n'est pas favorable, il n'y a pas de gendarmerie. On peut tout dire qu'on pourrait faire un fonds de concours, on peut faire tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a une fin de non-recevoir des services de l'État au plus haut niveau, puisque ça se délibère avec les gens de Bercy, et ils ne veulent pas savoir, ils veulent que entendre ça. Donc, les gens de votre liste, ok, je l'entends. Je ne suis pas forcément en désaccord avec ce qui est dit, mais aujourd'hui, il y a une fin de non-recevoir des services de l'État. Donc, soit on valide ce principe-là et on dit la commune de Vinay empoche 292 000 pour avoir vendu un terrain et la gendarmerie se fait, soit on délibère non et la gendarmerie ne se fera pas.
Non, mais c'est pas sur ça.
Mais, moi, je vous dis, tout simplement, je ne veux pas vous en dire plus.
Non, mais c'est pas sur ça. Nous, on est pour la gendarmerie.
Mais sur le montage, je vous dis qu'aujourd'hui, le montage nous est dicté par les services de l'État.
Donc, il n'y a aucun problème là-dessus.
Non, mais je viens de vous expliquer que le montage nous est dicté par les services de l'État. J'ai pas dit que j'étais forcément d'accord avec eux. Écoutez, vous irez poser la question au ministre, au ministre
d'État. Je sais pas, apparemment.
Je peux pas vous dire. C'est le ministère aujourd'hui. C'est le ministère. Écoutez,
c'est pas la peine de sourire, monsieur Mélinon, quand je dis ça.
Mais arrêtez. Écoutez, je vous explique. Je suis en train de vous expliquer que c'est le ministère aujourd'hui qui a défini la règle. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent machin, attaquer le ministère, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je ne peux pas vous dire plus. Aujourd'hui, j'ai passé pratiquement 3 mois sur ce dossier pour arriver à trouver une solution, parce qu'on n'avait arrivé pas à trouver une solution qui était décente par rapport à un blocage sur au niveau administratif. Aujourd'hui, la seule solution qui est trouvée, c'est celle-ci. Je ne dis pas forcément que je suis forcément tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour offrir une gendarmerie aux Vinois. Voilà. Je suis désolé, et qui rapporte 292 000 aux caisses de l'État.
Non, mais là.
Aux caisses de la commune.
Ce qui est questionné, c'est est-ce que ça ne nécessiterait pas une délibération spécifique?
La délibération, elle est ici, elle est pondue par les services, et c'est la seule que les services de l'État accepteront.
Donc c'est les services de l'État qui ont pondu la délibération.
Qui nous ont demandé comment...
Est-ce que vous avez vu un suivi juridique qui, effectivement, donc...
Écoutez, moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est de faire la gendarmerie à Vinay. Donc aujourd'hui, je ne reprendrai pas le risque de remettre en cause les débats avec les services de l'État. Ça, c'est hors de question, puisqu'on était au point, aujourd'hui, à ce que le porteur de projet abandonne... parce qu'il ne voulait plus entendre parler des problématiques, parce qu'il en avait marre de discuter avec les services de l'État. J'ai dû reprendre la main. On a rediscuté, c'est ça. Donc aujourd'hui, je mets à cette délibération au vote.
Quelle est la problématique là, que vous me dites au niveau des services de l'État?
Je viens de vous l'expliquer. Je ne peux pas aller plus loin. Oui. Je viens de vous expliquer qu'aujourd'hui, c'était la seule condition. Aujourd'hui, ceux qui font le bail, c'est les services de l'État. Le montage, c'est celui-ci qu'ils ont trouvé parce qu'on n'a pas d'autre à l'heure haute aujourd'hui.
Mais c'est pas la question. C'est pas.
Je ne peux pas vous expliquer. Écoutez, je peux pas. Mais arrêtez de rouspéter. Je vous ai en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, on a une fin de non-recevoir de l'État. Point barre.
Non, mais on ne remet pas en cause le fait que la ville.
Je peux pas vous en dire plus.
Les 69 000 euros, c'est pas cette. On s'interroge sur la viabilité de cette délibération. C'est tout.
Faites un recours. Vous ferez un recours contre la délibération puisque c'est.
Mais non, mais on est quand même dans un état de droit.
Eh bien, je viens de vous expliquer qu'aujourd'hui cette délibération elle nous était dictée par Bercy et vous arrêtez pas de me demander si elle est légale. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? À part vous dire ça. D'autres questions sur la délibération cette vente pour le habitat dauphinois? S'il n'y a pas d'autres délibérations, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Moi, en tous les cas, je suis très, très fier quand même aujourd'hui que la gendarmerie peut se construire et que, contrairement à la plupart des gendarmeries qui se construisent aujourd'hui en France, permettent à rentrer 290 000 dans les caisses de la commune, puisque la plupart des communes, et c'est ce que nous reprochaient les services de l'État, la plupart des communes offrent le terrain. Et nous, on l'a vendu. Donc ça, je veux dire,
C'était pas sur cette problématique que je vous questionnais.
Ensuite, cession de terrain, donc une petite parcelle, donc AE 170, au profit de Madame Guéripel Dolbert. Donc, quand on a acheté, la commune a acheté le reste de tènement où il y avait l'ex-usine Guéripel, donc au bout de la rue du Moulin, je crois, c'est ça. Je me mélange toujours les rues là-bas, donc entre le Moulin et du Moulin. Il y avait une petite parcelle à droite quand on rentre, on a le mur tout le long à droite quand on va vers les jardins au fond. Et il y a une petite parcelle qui est au-dessus de ce mur, qui nous a été vendue, une parcelle de 141 mètres carrés, sur laquelle aujourd'hui on ne peut pas y aller, puisqu'elle est totalement en fait, attachée à la maison Guéripel. En fait, historiquement, hein, c'était la maison Guéripel était la partie entière du tènement. Donc ce qui vous est proposé, c'est de céder cette parcelle de terrain à Madame Guéripel, qui se proposait de l'acheter à hauteur de, j'ai mangé le prix, de 4 230 €. Donc c'est l'estimation des domaines. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cession de terrain? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, c'est une cession de terrain donc, d'une bande donc, sur la parcelle AD58 à AD59 d'environ 2 mètres de large le long de la parcelle AD57 au profit de M. et Mme Torres. Donc là, c'est pareil, quand on a démoli l'ancienne maison de la famille Giraud et Talia, les maisons Giraud-Talia, la famille Torres nous a demandé s'ils ne pourraient pas acheter une petite bande de terrain pour se donner un peu de largeur à leur accès, parce qu'en fait, c'est à l'endroit où ils ont l'accès de leur maison. On a regardé si on faisait un parking sur cette zone-là en termes de calpinage. On a vu qu'on pouvait céder 2 mètres sans que ça perturbe ou que ça mette en péril l'évolution de ce ténement. Donc il est proposé, pareil, de vendre 2 mètres de terrain à M. et Mme Torres. Compte tenu, l'estimation des domaines est à 1 500 €, mais compte tenu des frais de démolition, des frais de géomètre qu'on a, on vous propose, et en accord avec la famille Torres, de le vendre 5 000 € pour qu'ils puissent améliorer leur accès. Est-ce qu'il y a des questions sur cette cession? Pas de questions, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'autre délibération, c'est l'acquisition à l'euro symbolique d'une parcelle AM 119, une superficie de 80 mètres carrés, située rue Raymond Plossu. Donc ça, c'est une parcelle qui appartient à Madame Dominique Véré. En fait, ces gens-là étaient propriétaires historiques à Vinay dans les années 70, hein, Jean-Pierre, je pense que c'est pas là, 70, hein, 70. Ils ont vendu leur tellement pour faire des maisons. Et à ce moment-là, la commune de l'époque avait fait un alignement. Et on avait donc une parcelle qui a été créée, la M119, qui était la parcelle d'alignement. Mais simplement, le notaire, quand il a fait les mutations, il a vendu les terrains donc, aux différents propriétaires qui ont construit leur maison. Mais la parcelle d'alignement, du petit bout de route, enfin, ou de la banquette de route, est restée propriété de la famille Véret. Et aujourd'hui, bah, ils souhaitent, parce qu'ils n'ont plus de biens à Vinay, ils souhaitent régler un petit peu leur problème de famille. Donc il est proposé de nous la céder à l'euro symbolique pour régulariser les choses. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, l'acquisition donc, d'une parcelle de terrain cadastrée AD4 d'une superficie de 87 mètres carrés située rue de Malval. Donc ça, c'est pareil. Rue de Malval, dans les années 2000, il y a eu pas mal de modifications sur le secteur. Il y a eu la démolition au carrefour des Trois-Rois et la reconstruction de l'immeuble SDH, là, ou pluraliste, SDH. SDH, avec dessous la caisse d'épargne. À côté, il y avait la Cascatelle qui a été construite. Et puis au milieu, il y avait un bâtiment qui est privé, qui appartient à la famille Escoffier et qui était en location. Aujourd'hui, la famille Escoffier a décidé de vendre ses appartements, donc de créer une copropriété et de vendre ses appartements. Et on s'est aperçu que la parcelle 4 était du domaine privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant cette parcelle, il y a des stationnements, mais en fait, c'est du domaine privé. Et du coup, ça pose problème parce qu'ils voulaient vendre ces parcelles, ces parkings, du coup, avec les appartements. Et on a trouvé un accord avec eux pour qu'on puisse rééquilibrer cette rue, parce qu'à cet endroit-là, on n'a pas de trottoir PMR. Et si on regarde bien, s'ils venaient à clore leur parcelle 4, on n'avait même plus de trottoir. C'était une régulation qui n'avait pas été faite en son temps. Donc aujourd'hui, pour pouvoir et définir un cheminement tout le long, redéfinir peut-être un sens de stationnement différent pour avoir un stationnement PMR, il est proposé d'acheter donc cette parcelle qui représente 4,5 stationnements, donc pour un montant de 10 000 €, afin de retrouver toute la gestion publique de ce quartier, qui est pour pas qu'on ait un îlot privé au milieu. Est-ce qu'il y a des questions sur cette acquisition? S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est la 6. En fait, qu'elle fait partie de la 6. Ouais. Jean-Pierre, pour la désaffection.
Donc ça, c'est la, une délibération pour la désaffection et déclassement du gîte à l'étage de la gare. Donc c'est l'étage du gîte de la gare, situé 250 avenue de la gare à Vinay. Donc le conseil municipal avait approuvé le principe du recours à une délégation de services publics simplifiés pour l'exploitation de l'immeuble en gîte étape. Il est apparu que l'exploitation de ce bien sous cette forme n'a pas permis de développer l'offre d'accueil de touristes, alors que l'ensemble du territoire manque d'hébergement. Donc la commune n'envisage pas de poursuivre l'expérience de l'exploitation sous cette forme-là, de la délégation de services publics, et envisage plutôt de revenir à une forme plus traditionnelle sous la forme d'une location de biens. Il pourrait être proposé, s'agissant de l'utilisation du local, de donner à celui-ci en location à un preneur qui s'acquittera d'un loyer fixe et exploitera une activité d'hôtellerie. Le local est inoccupé aujourd'hui, donc le conseil municipal peut donc, au constat de cette désaffection, prononcer son déclassement du domaine public communal.
Des questions sur cette délibération?
Allez-y. En fait... Je voulais avoir une information. Vous dites que donc que c'est l'utilisation du local sera donnée en location à un preneur qui s'acquittera d'un loyer fixe et exploitera une activité d'hôtellerie. Pourquoi c'est une obligation que ce soit une activité d'hôtellerie? C'est un preneur. Merci de m'écouter, Monsieur Monnet.
Comment?
J'ai dit merci de m'écouter.
Pardon, non, excusez-moi.
Non, mais c'est sûr, oui, je parle pour les murs, merci. Donc, je vous ai posé une question.
Pardon.
Je vous ai demandé, je voulais savoir, avoir un peu plus de détails sur pourquoi donc ce preneur s'acquittera d'un loyer fixe et exploitera une activité d'hôtellerie. C'est une obligation que ce soit une activité d'hôtellerie dans ce gîte d'étape.
D'hôtellerie, enfin, c'est-à-dire qu'on va le louer. Ben oui, parce que c'est le gîte est un gîte qui peut ressembler, enfin, on a des chambres à louer. Donc nous, ce qu'on veut rentrer, c'est rentrer de l'argent pour que le gîte fonctionne, en fait. Et en fait, on pensait le mettre sous cette forme-là parce que ça ne marche pas dans ce qui est loué actuellement. Enfin, dans ce qui est fait actuellement, ça ne marche pas. Donc quelqu'un qui le prendrait en hôtellerie, le ferait fonctionner, le mettrait sur Internet, le mettrait sur, voilà, sur un site, voilà, ça, obligatoirement, ça marcherait mieux.
Vous croyez que ça va mieux marcher?
Oui, oui. Alors,
parce que franchement, c'est vrai que ce gîte d'étape à côté d'une gare où passent des trains, franchement, moi, par exemple, personnellement, jamais j'irai dans ce gîte. Alors au début, à l'origine, c'était pour les cyclistes.
Oui, alors moi qui suis cycliste et qui fais ce genre de randonnée, c'est vrai que le problème, c'est qu'il faut le savoir. Et le problème actuellement de ces gens-là, moi, ça fait 3 ans que je négocie avec eux pour qu'ils essayent de faire de la pub dessus. Enfin, on a parlé avec Daniel, justement, pour essayer de les entraîner à faire plus de pub là-dessus. On s'aperçoit que ce n'est pas leur truc, en fait, que ça les gêne presque un peu d'accueillir les gens le soir, de les recevoir le lendemain matin, de les recevoir le week-end, par exemple. Donc, ce n'est pas des gens qui sont faits pour l'hôtellerie. Et c'est vrai qu'ils tiennent leur restaurant, ils tiennent leur café, mais au niveau hôtellerie, c'est un autre métier. Donc il y a à la fois le fait d'accueillir les gens à n'importe quelle heure quand ils arrivent, quand on arrive des fois en vélo, voilà. Alors il n'y a pas seulement le vélo, hein, on manque d'hôtellerie à Vinay, on manque d'hôtellerie en général, on manque de chambres en général. Donc, alors après, c'est vrai qu'on en parlait entre nous, peut-être qu'à l'intérieur, la personne qui va prendre va peut-être aménager l'intérieur. Si vous avez déjà visité, on pourra visiter peut-être un jour ensemble, mais c'est rudimentaire, c'est blanc, c'est bien pour un cycliste qui arrive, pour une famille, peut-être, voilà, il y a peut-être des choses à aménager aussi, peut-être, à l'intérieur. Donc je pense que quelqu'un qui est dans l'hôtellerie va savoir faire ça. Les gens qu'on avait jusqu'à maintenant sous cette forme-là, ça n'a pas du tout marché, à la fois au niveau de l'engagement publicitaire qu'ils devaient faire et de la réaction. C'est vrai que quand on les appelle, des fois, voilà, enfin, actuellement, quand on les appelle un samedi après-midi, c'est pas sûr qu'on ait la réponse, quoi. C'est pas sûr qu'on ait la chambre.
Mais moi, enfin, pour quelqu'un qui est cycliste, il m'a dit qu'en fait, avec les GPS aujourd'hui, bah, les cyclistes, ils ne passent pas par Vinay. Hein. Ben, là, enfin, c'est ce qui m'a été dit. Hein. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas
là,
cycliste.
Il y a une route, c'est la route.
Mais, oui, mais il paraît qu'ils détournent autrement. Ah. Des cyclistes. D'accord.
La route 63 passe dans Vinay.
Bon, aujourd'hui, la délibération qui est proposée, c'est déjà pour dire on le sort du domaine public.
Mais pourquoi après, le garder au niveau de l'hôtellerie ? Est-ce après, qu'il ne pourrait pas y avoir une autre réorientation de ce gîte ?
Bah, c'est la vocation pour l'instant.
Une autre réorientation, je
l'intérêt, sais pas, moi, l'intérêt aujourd'hui, il est quand même flagrant qu'il manque de couchage sur notre commune et sur le territoire en sens large. Donc on a quand même tout intérêt à ce que ça soit pris dans ce sens-là. Donc la démarche, c'est de dire on la sort d'une gestion type DSP. Donc c'est ce qui vous est proposé ce soir. En parallèle, un appel à projet est lancé pour chercher des candidats pour gérer ce gîte, cet espace. Et à l'issue, soit on a des candidats qui nous font des propositions qui sont intéressantes, soit il n'y en a pas et on rediscutera. Mais aujourd'hui, on a tout intérêt à essayer de chercher des candidats pour gérer ça sous forme de quand même d'espace d'hébergement, puisque c'est Daniel qui nous le fait remarquer assez souvent. On en manque cruellement sur le territoire. Une étude a été faite récemment, une étude de marché a été faite récemment en disant qu'il y avait à peu près 80, il y avait un potentiel de 80 couchages sur Vinay et qui n'étaient pas aujourd'hui servis. Donc,
non, mais d'accord qu'il y ait des difficultés d'hébergement, mais ce n'est peut-être pas le bon lieu pour l'hébergement.
Bon. Alors, la gare, finalement, pour un vélo, c'est des fois pas mal, parce que les gens peuvent arriver jusqu'ici en vélo et pouvoir décider de repartir avec le train. Ça se fait beaucoup aussi, hein, de mettre le vélo dans le train, ceux qui font l'itinérant, et repartent avec le train à un autre endroit et repartent de l'autre endroit avec leur vélo. Donc ça peut être aussi intéressant, mais là-dessus, il faut communiquer, c'est-à-dire que ça peut être un atout d'être devant une gare.
Déjà, aujourd'hui, la délibération, c'est pour dire on sort du système de DSP, c'est-à-dire qu'on sort, on la déclasse du domaine public, on dit ce bâtiment, cet espace n'est plus du domaine public, pourrait être géré d'une manière privée, donc, et après, on verra si on a des candidats. Donc qui est contre
J'avais juste une précision à apporter, parce qu'à l'époque, enfin, il y a 2 ans de ça, on avait demandé aux grandes traversées du Vercors de voir si justement avec cette histoire de venir en vélo, avec son vélo par la gare du Nez,
par le train,
et après commencer à faire une traversée.
Pour faire le Vercors. Ouais.
Bon, la réponse par les personnes qui s'occupent du gîte a été non, parce qu'on ne peut pas accueillir des vélos comme ça.
Oui, c'est pour ça qu'il est tout intérêt d'avoir une gestion avec des gens qui auront un intérêt de le mener à bien et plus avoir une gestion d'un espace public. Donc, qui est contre pour le déclassement de cet espace, donc de le redonner en espace privé ? Qui s'abstient ? Merci. Vanessa, délibération 2024-09.
Bonsoir. Donc c'est la convention annuelle relative à la participation financière des communes extérieures concernant les frais de fonctionnement du centre médico-scolaire qui est à Saint-Marcellin, donc pour cette année 2023-2024. Donc on a 422 élèves de la grande section jusqu'au CM2 des écoles privées et publiques pour une participation de 3,70 € par élève, soit 1561,40 € pour cette année. Il y a des questions ?
Pas de questions sur la délibération 2024-09. Donc s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours Vanessa pour 2024-10.
Donc cette fois-ci, c'est une convention relative à la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles tulinoises accueillant des enfants non tulinois en ULIS. Donc cette année, on a un enfant vinois en classe ULIS à Tulin. Donc, qui nous demande une participation financière pour l'année 2022-2023, donc pour l'année écoulée, qui s'élève à 787,68 €.
Question ?
Y a-t-il question ?
Je mets au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours Vanessa.
Donc, modification du règlement intérieur des accueils périscolaires. Donc, vous avez en annexe 3 l'ancien règlement intérieur avec les passages de l'article 5 surligné en jaune. et le nouveau règlement intérieur des accueils périscolaires. Donc, dans l'article 5, il a été vu en groupe de travail qui a réuni les enseignants, les parents d'élèves, les agents et la commune, d'enlever la pause cartable, qui s'appelait étude, car aujourd'hui, il y a une fréquentation moindre et le résultat n'est pas celui attendu. Donc, vu avec tout le groupe de travail, il n'y a plus de pause cartable. Si les enfants souhaitent tout de même faire leurs devoirs, ils ont quand même un moment où ils pourront faire leurs devoirs, mais ça ne se rappellera pas un temps d'étude. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Non, je voulais juste remercier Madame Savigny, qui effectivement a mis les deux règlements, ce que j'avais demandé. Effectivement, comme ça, on peut voir très vite comment ça, les modifications. Et puis après, pour m'être enseignée auprès de parents d'élèves, je crois qu'ils sont tout à fait d'accord pour cette modification. Voilà. Donc, merci, Madame Savigny, de m'écouter un petit peu.
De rien.
D'autres questions ? Je mets aux voix. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Il y a 2024-12, toujours à Vanessa.
Donc, c'est pour un projet de patrimonialisation de la fête de la Rosière, donc l'inscrire à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Donc, vous trouvez en annexe 4 la convention accompagnée d'un projet. Donc, c'est d'inscrire nos fêtes de la Rosière dans ces travaux qui sont menés par Madame Oliver, qui est mandatée par le ministère de la Culture, pour inscrire toutes les fêtes de Rosière de France au patrimoine immatériel, ce qui nous permettrait de demander aussi une subvention auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine du département de l'Isère à hauteur de 50%. Donc les frais engagés seraient de 1 200 euros avec une subvention attendue de 50%, soit 600 euros. Cette fiche descriptive qui sera inscrite donc au patrimoine culturel immatériel nous permettrait d'avoir une légitimité de l'événement culturel, une forte visibilité touristique et qui nous permettra ensuite de bénéficier de différentes opérations de sauvegarde de ce patrimoine de la Rosière. Y a-t-il des questions ?
Alors moi, je voulais intervenir.
Oui.
Donc, Je vous ai mis chacun d'entre vous la photocopie. Donc moi, je voudrais revenir sur l'historique de ces fêtes de la Rosière avant le vote de la délibération. La tradition de la Rosière est une tradition catholique. Elle est née à Salency, dans l'Oise, instituée selon la légende par Saint Médard, qui fut évêque de Noyon à la fin du 5e siècle et qui était aussi le seigneur de Salency et aurait instauré en 525 la tradition de la Rosière en donnant chaque année une somme de 25 livres et une couronne de roses à la fille de sa terre qui aurait la plus grande réputation de vertu, de modestie et de piété. Cette tradition connaît un regain au XIXe siècle et elle est à mettre en parallèle avec la loi juridique des droits de la femme qui a persisté tout au long du XIXe siècle et jusqu'en 1938, à savoir le Code Napoléon publié en 1804 qui institue l'incapacité juridique de la femme mariée. Elle est mineure. Dans ce code, on assimile les femmes aux fous, aux mineurs et aux délinquants. Ça consacre l'infériorité de la femme face à l'homme. Les femmes sont soumises à l'autorité du mari. En 1938, la loi supprime la fameuse sentence de ce code Napoléon. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Supprime l'incapacité juridique de la femme mariée, mais n'instaure pas l'égalité des sexes, ni dans la famille, ni dans le mariage. En 1965, la loi de réforme des régimes matrimoniaux autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale et à gérer leurs biens propres. Et en 1967, la loi Neuwirth, qui est une grande loi, autorise la contraception. Et ainsi de suite, jusqu'en 2024, de nouvelles avancées qui vont permettre donc l'amélioration de la condition des femmes. Cette tradition connaît un regain au XIXe siècle, à mettre en parallèle avec le Concordat de 1802, où le gouvernement français reconnaît la seule religion catholique comme la religion majoritaire des Français, concordat qui persistera jusqu'en 1905, loi de séparation des Églises et de l'État, qui est une grande loi pour la France. L'histoire permet de comprendre dans cette tradition de la Rosière et le testament de M. Louis Brun-Fauquier de 1892, Doter une jeune fille honnête, laborieuse, respectueuse de ses pères et mères, jouissant d'une bonne santé et digne à tous égards de l'estime publique. Le testament date de 1892. Certaines clauses dans ce texte ne sont plus d'actualité aujourd'hui et ont été annulées ou modifiées, comme être né à Vinay, se marier dans l'année, donner le prénom de Louis pour le premier enfant, garçon, donner le prénom d'Amélie pour le premier enfant, fille, habiter depuis 22 ans à Vinay. Les 12 membres qui votent parmi les plus imposés de la commune, c'est-à-dire les riches qui peuvent voter pour la Rosière. Mais il subsiste à Vinay le fait, aujourd'hui, que l'élection est présidée par M. le curé, qu'il y a une messe, qu'il faille y habiter au moins 15 ans. Cette semaine, lundi 4 mars, un jour historique pour les femmes, la France, premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution, un symbole pour toutes les femmes qui résistent et se battent dans le monde, un hommage à toutes celles qui ont écrit, agi, et celles qui se battent encore au quotidien pour que nous escaladions, mètre par mètre, la paroi escarpée menant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, c'est une victoire dans le long combat des femmes contre l'obscurantisme. Ce vote ouvre la voie à une exigence d'égalité d'accès sur le territoire. Vendredi 8 mars, dans 2 jours, journée internationale des droits des femmes, pour mettre en avant tous les combats à mener, il serait bien que Vinay participe, comme de nombreuses communes, à cette journée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les enjeux actuels. Donc, j'ai repris la convention donc, de cet ethnologue. Donc, dans la convention proposée par le cabinet d'études, celui-ci souligne les enjeux actuels. Et il est indiqué, la démarche d'inscription sur le registre de l'inventaire national devient un moyen pour les communes détentrices de promouvoir cette tradition tout en permettant à son adaptation à l'époque contemporaine. La tradition de la Rosière, je cite toujours ce cabinet d'études, la tradition de la Rosière s'inscrit dans l'évolution de la société française et doit faire face aujourd'hui à de nouveaux enjeux, renouvellement de la population, nouvelles aspirations et modes de vie des jeunes, évolution de la condition féminine, laïcité, loi de séparation des églises et de l'État. Alors, si cette étude permet de faire évoluer cette tradition qui n'est plus en phase aujourd'hui avec la condition féminine et l'évolution de la société française, pourquoi pas ? Gardons en mémoire le fait que le plus important pour les 3 jours des fêtes de la Rosière, c'est le moment de partage, de solidarité et d'émotion.
Merci. Merci.
Donc, j'aimerais bien que vous me répondiez un petit peu. Donc, parce qu'effectivement, je pense qu'il serait intéressant que de se saisir de ce moment avec donc ce bureau d'études pour faire avancer, pour faire évoluer l'image de la femme à travers de la Rosière. La Rosière, parce qu'on voit bien qu'effectivement, par exemple, aujourd'hui, je vais être un peu polémique, mais par exemple, si cette jeune fille, elle est d'origine protestante, elle rentre à la messe, elle rentre à l'église le jour de la Rosière, si elle est athée. Là, par exemple, aussi, il met père. Pardon ?
Oui, athée, oui. Ça s'est déjà produit.
Oui ? Bah, oui, mais elle est pas.
Je vous rappelle
aussi,
que c'est.
Père mère, par exemple, parce que dans le mémorial, il y avait donc un article de M. Giroux par rapport à donc l'inscription des rosières là, et donc il reprenait donc effectivement la phrase de M. Brun-Folquier, hein, une jeune fille honnête, laborieuse, respectueuse de ses pères et mères, jouissant d'une bonne santé et digne à tout égard de l'estime publique. Aujourd'hui, ben, on peut avoir une famille où il n'y a que deux pères, où il n'y a que deux mères, enfin, etc. Il y a toute une évolution de la société. Il faut quand même qu'on prenne en compte tout ça, quoi. Qu'on n'en reste pas tout en pensant qu'effectivement les traditions sont importantes, mais il faut aussi les faire évoluer. Et donc ce serait bien.
Je pense qu'elles ont déjà bien évolué.
Parce qu'elles ont été contraintes et forcées aussi.
Non.
Bah, si. Le fait du garçon ou de la fille, etc. Le fait de ne pas naître à Vinay, bah, c'est normal, il n'y a plus de maternité à Vinay, donc c'était obligé. Le fait que les 12 les plus riches de la commune votent, comme on est au suffrage universel aujourd'hui, et ça, c'était un suffrage censitaire, il y a quand même des choses qui sont... qui sont dans l'obligation quoi de d'évoluer. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est que ce bureau d'études, et ben effectivement, il y ait peut-être un groupe de travail, de réflexion sur comment faire évoluer c'est l'image de la Rosière à Vinay. C'est-à-dire, ben effectivement, c'est sans tout déglinguer, sans tout remettre en cause, mais de faire petit à petit des choses qui permettent effectivement aujourd'hui, quand même, dans cette semaine où on se réunit aujourd'hui, il y a quand même deux dates essentielles pour les femmes. C'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution et la Journée des femmes. Prenons la mesure de ça, quoi.
Je pense qu'il pourrait y avoir des évolutions. D'abord, on verra ce que nous dira le bureau d'études. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Que des travaux soient menés dessus, c'est pas du tout interdit, loin de là. Maintenant, aujourd'hui, faire le parallèle que le fait de valider les fêtes de la Rosière à Vinay, ça met en cause la condition féminine. C'est un peu quand même un raccourci.
Non, mais à chaque fois, vous interprétez.
Non, mais pour avoir côtoyé, la chance de côtoyer Gisèle Halimi, c'était loin d'être une femme opposée aux traditions.
Mais donc, j'ai pas dit que c'était.
Donc évidemment, le bureau d'études. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, je vous ai écouté, je vous demande de m'écouter.
Oui, vous interprétez.
Je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu. Merci. Si vous voulez, alors là, écoutez, à un moment donné, il va falloir respecter les gens. Hein, parce que moi, à chaque fois, je vous écoute. Je vous ai écouté, je ne vous ai jamais interrompu. Vous avez lu deux pages, je ne vous ai pas interrompu, vous m'interrompez. Ah ben là, ça suffit. Je coupe, hop, plus de débat. Plus de débat. Je mets au vote. Je vous donne pas la parole, je vous arrête.
Quand vous m'avez
dit. Je vous arrête. Je coupe le débat, on met au vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, la séance est terminée. Je me suis...